Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 3 juin, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous partons à Finiels dans un instant à la rencontre de Léa, c'est elle qui s'occupe du rêve, le réseau d'entraide volontaire, avec elle nous parlerons de l'asso, des projets à venir, de leurs besoins, bref. On s'envoie du rêve dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, Léo était allé à la rencontre d'Anthony, le potier de Bédouès. Je vous propose de réécouter ça tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence par l'édito. Vous êtes bien sur Radio Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Un article et un site ce matin que je vous invite à aller voir. Pour l'article, c'est dans Mediapart. Ça concerne le site Le Revers de la Médaille, enfin en tout cas le regroupement d'associations Le Revers de la Médaille. C'est un regroupement d'associations d'acteurs et d'actrices de la solidarité qui alertent sur l'impact social de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en plaidant pour un héritage positif dans la lutte contre l'exclusion. Car de fait, l'article de Mediapart relaye, car c'est pas nouveau, la parole de ce collectif qui alerte depuis plusieurs mois sur les violences sociales et policières à Paris en vue des JO prochains. On assiste à une gentrification des quartiers populaires en invisibilisant la misère sans pour autant régler les problèmes de fond. Le revers de la médaille propose pourtant des solutions concrètes pour aider à faire avancer les choses de la meilleure façon qui soit. Je vous mets donc l'article de Mediapart et le lien du site du revers de la médaille dans un instant sur notre site.
Les larmes des pauvres ont un goût amer, mais il y en a tant qu'elles font des rivières. Les malheureux s'y jettent pour cacher leur misère et désespérément y noyer leur colère. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Sachez les enfants que lorsque l'oiseau chante, il chantit aussi fort dans sa cage pimpante qu'on se demande parfois si ce curieux ramage est un hymne à la joie ou bien un cri de rage. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Le rire des pauvres n'est pas rigolo. Quand leur joie explose, c'est comme un sanglot qui voudrait dire tant mieux et qui grimace tant pis et qui cache comme il peut le chagrin sous le tapis. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Le rire d'une femme caracole au ciel éclabousse nos cœurs en rayons de soleil. Mais quand c'est pas le patron qui lui pourrit la vie, elle récolte les nions de son gentil mari. Les larmes des pauvres ont un goût amer, mais il y en a tant qu'elles font des rivières. Les malheureux s'y jettent pour cacher leur misère et désespérément y noyer leur colère. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux? Paraît qu'un mouton peut se changer en vous.
Mercredi dernier, je suis allé au col de Finiels sur la commune du Pont de Montvert. Vous voyez peut-être le grand bâtiment qui surplombe la vallée. L'ancienne colonie de vacances qui a été réinvestie par l'association Le Rêve, le réseau d'entraide volontaire, à la rencontre de Léa. Mais en arrivant sur place, je rencontre un jeune volontaire japonais très souriant.
Je m'appelle Kota, je suis japonais, je suis 21 ans, je suis volontaire international, 6 mois, moi maison. Colonie de Finiels. Enchanté.
Comment tu es arrivé ici? Comment tu as connu le rêve?
I'm one of the member of the Japanese International Volunteer Organization, and I was researching the site, and I was thinking like, I want to go Europe, and I want to stay Europe someplace long term, and I found this project because half year or so long, and I can organize the work camp groups from international, especially in from Europe, so. That's really good opportunity, so that's why I came here.
Ah, donc il nous explique qu'il était membre d'une organisation de volontaires au Japon. Il recherchait un site et il voulait venir en Europe. Et il a trouvé ce projet. C'était une belle opportunité. C'est pourquoi il est venu ici.
What are the activities here? What are you doing?
Okay, I mean organizing the work camp groups means like this project, the biggest. Topic is the sustainable and protecting the nature and the collective life. So we, this, you know, this area is really connecting deeply with nature, and we wake up collective time, and lifestyle is really like. Yeah, collective. So organizing the work camp groups like that, and also organizing the activity like climbing and playing the river. This is our task.
Yes.
Voilà, donc Kota nous dit que l'organisation des groupes de travail signifie que ce projet a pour thème principal le développement durable et la protection de la nature et de la vie collective. Donc que en fait cette région est vraiment connectée profondément avec la nature et il se réveille, on va dire, collectivement, et les styles de vie qu'ils y font sont vraiment collectifs. Voilà, donc ils s'organisent et bon, ils ont plein d'activités, notamment nettoyer les rivières, la nature, c'est un peu ce qu'ils font.
Did you meet some people from the Parc National des Cévennes?
Not yet.
Not yet?
Not yet.
But,
we will.
Yeah.
Yeah.
So you know when?
Maybe maybe next month. The beginning of next month, I think. So I'm really excited because in my country, I a little bit studied about the World Heritage Site of UNESCO. Mm-hmm. And this is the one of the key to decide to come here. So it's really my honor to learn about protect this area. So, I love this place.
Donc après nous avoir dit qu'ils allaient peut-être rencontrer le parc national le mois prochain, il nous explique pourquoi il est super intéressé de les rencontrer. Il nous explique qu'il a un peu étudié le patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est l'une des clés, l'une des raisons qui l'a poussé à venir ici. C'est donc un honneur pour lui d'apprendre à protéger cette région et il adore cet endroit. Et derrière donc le bâtiment que l'on voit de la route, ce grand bâtiment, eh bien en fait on rentre dans la cour et tout dans le fond il y a les bureaux du rêve où je suis allé rencontrer Léa.
Salut Léa!
Salut Ben!
Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter la structure du réseau d'entraide volontaire?
Oui, tout à fait. Alors, je suis Léa Brassard, responsable de l'association Réseau d'entraide volontaire. Et nous voilà sur le Mont Lozère, côté sud, sur le hameau de Finiels au Pont de Montvert.
C'est quoi le réseau d'entraide volontaire? Exactement, vous y faites quoi?
Alors, c'est une association d'éducation populaire, association de loi 1901. Que dire de plus pour la présenter? On fait plein de trucs. On œuvre pour, comme il est écrit dans nos statuts, pour participer de manière concrète à la paix. Donc on met en place des projets à destination des jeunesses, parce qu'on estime que les jeunes ne sont pas que ceux qui ont un âge faible, entre guillemets. Et donc, voilà, on crée plein de prétextes pour faire se rencontrer les humains entre eux et d'apprendre toujours par tous les moyens.
Allons-y pour les projets de cet été. Qu'est-ce qui va se passer? Combien de jeunes vous accueillez en ce moment? Combien vous allez en accueillir? Qu'est-ce qui va se passer pour vous concrètement tout cet été?
Alors là, actuellement, sont déjà présents 4 volontaires internationaux. Emma, Kota, Nourdan et Agustine. Ils sont arrivés en avril, début mai, et ils vont rester ici jusqu'à octobre. Donc ces jeunes-là ont entre 18 et 30 ans et ils viennent pour se lancer des défis, autant personnels que professionnels. Donc nous, on met en place des projets où on va leur donner des responsabilités au fur et à mesure de l'année. Les accompagner à valoriser, à se rendre compte de toute la progression qu'ils ont et surtout préparer le après, une fois qu'ils rentrent chez eux, comment ils peuvent valoriser aussi cette expérience de volontariat. Et donc, en plus de ça, on a des petits projets de 2 à 3 semaines. Le premier commence en juin et le dernier termine en octobre. Donc ce sont surtout des chantiers internationaux ou interculturels. Et donc là, il y a du technique, entre guillemets, dans ces projets, même si les participants, il n'y a aucune demande de qualification technique. Donc là, ça va de la rénovation à la construction, à la préservation de l'environnement. On peut même faire des projets, des chantiers sur des thématiques archéologues. Enfin, voilà, on est vraiment sur du bâti, du patrimoine, préservation du patrimoine. Et ensuite, il y a des projets qu'on appelle des échanges de jeunes. Donc là, c'est moins technique, c'est un peu plus intellectuel, entre guillemets. Bon, c'est vrai, je ferai vraiment des catégorisations, mais il faut absolument éviter. Et donc là, on a un projet en juin sur la biodiversité et on espère en avoir un second en août sur la société inclusive. Alors c'est une grande thématique, mais c'est voilà. Mais ouais, de pouvoir venir questionner un peu notre société et savoir comment elle peut être davantage inclusive. Est-ce qu'elle l'est? Est-ce qu'elle l'a été davantage avant? Enfin voilà, de traverser un peu toutes ces questions avec un groupe de personnes internationales. Et c'est ça aussi nos projets, c'est d'être intergénérationnel, interculturel, de venir se rencontrer par la rencontre de l'autre.
On est en plein milieu du parc national des Cévennes, hein, ici à Finiels. Est-ce que vous avez des liens avec le parc? Comment ça se passe?
Oui, complètement. Alors on est vraiment à la limite du cœur du parc. On voit le cœur du parc juste derrière nous, donc on sait qu'on n'est pas concerné par trop de réglementations, mais on se tient quand même informé sur le fait d'être en accord avec ce qu'ils défendent, ce qu'ils initient. On a d'ailleurs le maire de notre commune qui est président du parc, donc on ne peut pas ignorer cette institution.
Stéphane Morin, pour ne pas le citer. Hein.
Tout à fait. Et donc on essaye de... comment dire ça? De les mobiliser, de les solliciter comme des ressources par rapport à leur vision et la pluralité de leur équipe. Donc là, par exemple, on a demandé à Benoît de venir nous conseiller sur la mise en place de MAR. Donc c'est un des chantiers de cet été. Donc c'était génial parce qu'il a découvert le site. Il en a profité pour inviter le référent de l'ONF qui a son triage derrière le site. Ce qui permet vraiment de travailler en lien avec toutes les personnes du territoire et de s'ancrer en cohérence. Enfin voilà.
Benoît Defresne, que je salue, et Stéphane Morin aussi. Je trouve que je parle beaucoup de toi, Stéphane, en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, peut-être es-tu sur beaucoup de fronts à la fois. De qui vous dépendez? Comment vous êtes financé?
Alors, le modèle économique de l'association dépend de ses activités. Donc, c'est un peu une injonction à l'activité. Il faut qu'on fasse des trucs pour pouvoir avoir les moyens. Voilà, c'est un peu un... un serpent qui se mord la queue. Donc, ce qu'on essaye de faire là depuis qu'on est arrivé en Lozère, c'est d'avoir des financements qui ne dépendent pas que des activités et qui vont pouvoir financer vraiment le fonctionnement de l'association. Également de trouver des subventions d'investissement, puisqu'on est sur la récupération d'un bâtiment qui n'a pas fonctionné depuis presque 10 ans, et donc il va nous falloir trouver des fonds. Mais voilà, actuellement c'est l'Europe qui finance une partie de nos projets, c'est la région, c'est l'État, c'est le département, c'est les communes avec lesquelles on fait des projets aussi qui participent financièrement à la mise en place des chantiers extérieurs. Voilà, je pense avoir fait le tour.
En tout cas, oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, on est dans le grand bâtiment qui domine vraiment toute la vallée, donc à Finiels, hein, sur le col, et c'est un ancien bâtiment, il me semble, des années 70, hein, c'est ça, seulement des colonies. Donc ouais, c'est l'une des priorités, peut-être, parce qu'on voit qu'il a pris un sacré coup de vieux, c'est une des priorités de le rénover.
Oui, c'est ça, il date même des années 50.
Ah ouais, carrément, ouais. 20 ans près.
Bah ouais, mais du coup, ça a vraiment été un bâtiment qui a été construit pour comme colonie de vacances, donc il est pas du tout équipé à traverser l'hiver, par exemple. Il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de raccordement à l'eau non plus. Et c'est un bâtiment qui a été racheté dans les années 80 par une société anglaise, où ils ont fait une bonne partie des travaux pour essayer d'ouvrir un peu plus longtemps dans l'année. Mais on se retrouve avec pas de plan, pas de... Enfin voilà, c'est un bâtiment qui a traversé toute une période un peu de manière miraculée, mais nous, ça nous donne du fil à retordre pour tout remettre à plat et faire les choses correctement.
Donc on a parlé argent, on a parlé bâti, quels sont aujourd'hui les besoins au-delà de ces deux-là de l'association, si tant est qu'il y en ait?
Pouf. Par quoi commencer? Et oui, j'ai omis, quand on parlait financement, on est aussi soutenu par le parc, parce qu'on a mis cette année en place une filière alimentaire pour s'alimenter de manière locale. Et donc ça, c'est des types de projets qui sont vachement encouragés sur le territoire. Et donc voilà, je n'avais pas envie de les oublier sur ce soutien hyper important. Et donc, au niveau de nos besoins...
Est-ce qu'ils sont humains? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Comment ça se passe?
Oui, toujours. Après, là, ce qu'on a besoin, c'est de réussir à se structurer pour savoir exactement comment prioriser tout ce qu'il y a à faire. Il y a tellement de chantiers, entre guillemets, qui peuvent démarrer là, en même temps que... quand on sollicite des bénévoles, il faut quand même réussir à cibler là où sont nos besoins. Notre grande victoire, là, entre guillemets, depuis qu'on est arrivé en Lozère, c'est d'avoir constitué un conseil d'administration local avec des gens qui sont vraiment investis, qui comprennent les fonds de l'asso, la forme aussi qu'elle prend. Et donc ouais, là, le chemin à venir, c'est d'arriver à se faire davantage connaître par les professionnels du territoire aussi, qui sont en lien avec la population, de pouvoir continuer à tester différentes occupations du bâtiment. On aimerait aussi accueillir des initiatives locales, donc pourquoi pas carrément héberger, de récupérer le bâtiment avec d'autres associations, d'autres structures. Tout ça, c'est en cours, et il faut qu'on débroussaille, il faut qu'on continue à débroussailler. Parfois, ça se fait grâce à des opportunités, des gens qui arrivent jusqu'à nous et on n'avait pas pensé à ça et ça démarre. Ou alors, on va avoir une vraie stratégie comme là, la filière locale. Et donc, on avance pas à pas, quoi.
Et bien justement, si y a des pros, des gens qui sont intéressés pour vous contacter, bon, évidemment, venir voir le lieu parce que ça, c'est absolument génial. Et vous contacter, mail, téléphone.
Oui. Donc, je cite mon numéro de téléphone.
Ouais, ou alors ou si t'as un mail pro.
Oui, bon alors, il est un peu compliqué. C'est solidarité jeunesse sans accent, les deux mots au pluriel tout collé, .rev@gmail.com.
Je le mets sur notre site dans un instant. Merci beaucoup Léa.
Avec plaisir Ben.
Et voilà pour cette rencontre. On fera des choses ensemble l'année prochaine avec le rêve. On en reparlera. Dans un instant, Léo était parti à la rencontre d'Anthony Le Potier de Bédouès. On écoute ça juste après Fiona Apple, Sleep to Dream.
I tell you how I feel, but you don't care. I say tell me the truth, but you don't dare. You say love is a hell you cannot bear. And I say give me my back and then go there for all I care. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stopped. I have never been so insulted in all my life. I could swallow the seas twice down all this pride. First you run like a fool just to be at my side. And now you run like a fool but you just run to hide and I can't abide. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds, you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stifled by your deviant ways. So don't forget what I told you, don't come around. I got my own hell to raise. Don't make it a big deal, don't be so sensitive. We're not playing a game anymore. You don't have to be so defensive. Don't you plead me your case, don't bother to explain. Don't even show me your face, cause it's a crying shame. Just go back to the rock from under which you came. Take the sorrow you gave and all the stakes you claim. And don't forget the blame. I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream. You got your head in the clouds and you're not at all what you seem. This mind, this body and this voice cannot be stopped.
Aujourd'hui, je rends visite à Anthony Lagarde, artisan de la poterie du sens à Bédouès. Bonjour Anthony.
Salut Radio Bartas.
Je considère personnellement les métiers de l'artisanat et les métiers de création comme ce qu'on appelle des métiers passion. Toi, tu pourras vraiment m'expliquer, est-ce que c'est vraiment le cas ?
C'est certain. C'est certain que c'est des métiers qui sont passionnants. Parce que déjà, on n'y vient pas par hasard, sans un peu d'intérêt. Et puis, ce qu'on y trouve est souvent très, très profond. Et une vie ne suffit pas. Je pense que c'est tout toutes ces possibilités, et puis ensuite cette relation qu'on a avec avec la matière qu'on travaille, qui est passionnante aussi, et puis après l'aspect création, qui est un peu infini.
Aujourd'hui, tu es installé en Lozère à Bédouès. J'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Tu étais où avant ?
Bah, je vais reprendre un petit peu du début quand j'ai commencé à me former dans ce métier. En fait, ça a été un petit peu les hasards de la vie, parce que je me suis retrouvé en Andalousie, à Séville. Et je me suis retrouvé à passer un an dans un atelier où il y avait plusieurs céramistes qui travaillaient. Et puis, en fait, j'ai découvert petit à petit voilà, toutes les techniques un petit peu de décor là-bas. C'était surtout du décor sur émail cru. Parmi les gens qui travaillaient dans cet atelier, il y avait quelqu'un qui tournait, donc qui travaillait sur le tour de potier. Voilà, j'ai eu l'occasion d'essayer et depuis ce jour-là, je suis un peu comme voilà, un peu comme Obélix, je suis tombé dedans. C'est vraiment un outil qui m'a fasciné par la. On crée des formes en instantané. On part vraiment d'une balle de terre, une boule de terre. Et d'un coup, on développe des formes. Et après, je suis rentré en France. Là, j'ai passé un apprentissage. C'était du côté de. À côté d'Uzès. Ça s'appelait Saint-Quentin-la-Poterie. Et après ça, je me suis tout de suite lancé. J'ai tout de suite eu envie d'ouvrir mon atelier et puis d'expérimenter.
La Lozère, c'est pas banal. Peut-être les Cévennes encore moins. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé ici à cet endroit ? Est-ce que la terre locale est une source de matière première ?
Alors, moi, ouais, pas du tout. Alors, il y a pas trop d'argile en Lozère. Ou alors, pas encore. C'est trop tôt. Peut-être d'ici quelques millions d'années, on aura des super argiles. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Mais par contre, d'un point de vue minéral, la Lozère, c'est incroyable en termes de diversité. Et moi, dans mes émaux, en fait, parce que je fabrique mes émaux à partir de roches, c'est un petit peu le même processus que ce qui s'est passé dans ce qu'on va trouver dans les grands métamorphismes ou quoi. On part des mêmes ingrédients, on essaye de reproduire un petit peu la même chose qui s'est fait pendant des millions d'années de métamorphisme, de pression, tout ça, on fait ça dans la durée d'une cuisson. Et
ça me fait un peu rire tout à l'heure que tu aies parlé d'Obélix, parce que ma question suivante était comment on fait pour devenir potier aujourd'hui ? Est-ce que c'est une vocation ? Est-ce qu'il faut tomber dans le pot quand on est petit ?
Ouais, non, après, moi je viens de Bourgogne, et plus précisément de la Nièvre. Et c'est un département où dans le nord de la Nièvre, il y a une grande culture céramique parce qu'il y a toute la partie qui est la puisée, où là-bas, ils ont une argile qui est très, très réputée. C'est une argile à grès. Et il y a encore beaucoup, beaucoup d'ateliers. C'est encore très, très dynamique dans ce coin-là. Donc peut-être, voilà, si on remonte par là, peut-être, mais c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné parce que je ne savais pas du tout, comment était fabriqué là, en fait, comment ça marchait la céramique, comment on partait de la terre, comment on cuisait la terre. Les quelques fois, je me souviens avoir essayé, gamin, à mettre dans un feu ou dans un four, 99 fois sur 100, ça explosait. Donc pour moi, c'était un truc hyper technique. Même si c'est un métier ancestral, quoi, on a commencé ce métier-là à l'aube de l'humanité.
Tu me disais que tu avais fait des études pour en arriver là aussi. C'est quoi comme étude qu'on fait ?
Alors moi, j'ai fait un CAP. Donc un CAP en 2 ans avec une partie école, une partie chez un artisan. Moi, j'étais du côté de Saint-Jean-de-Fosse et l'école était à Saint-Quentin-la-Poterie. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, à l'issue de ces 2 ans, on passe un petit concours, un examen. Et à l'issue de cet examen, on l'a ou on ne l'a pas, ce CAP. Donc, moi, l'intitulé, c'était vraiment du tournage. Tournage en céramique. On faisait que du tournage. Alors, en entreprise, on faisait plein d'autres choses. C'est pour ça que le CAP, c'est quand même une super formation parce que tu alternes justement le, vraiment la pratique dans une entreprise, comment ça se passe en vrai, et puis la partie un petit peu plus théorique et un peu plus pratique en école.
Aujourd'hui, si tu n'avais pas eu ton diplôme et que tu avais quand même fait le CAP, tu penses que tu en serais au même point ? Est-ce que l'obtention du diplôme a changé des choses ?
Alors, en fait, quand on sort de 2 ans de CAP, c'est vrai qu'on a, on a un diplôme, mais on a des bases, mais techniquement, c'est, je pense plein de corps de métier, plein de gens qui ont fait des CAP aussi en 2 ans, ils diront la même chose. Moi, dans ce que j'entendais des tourneurs, des professionnels, des anciens, ils disaient, voilà, un tourneur, c'est entre 5 et 10 ans d'apprentissage, vraiment, qui devient un vrai tourneur, quoi. Et puis, pour être ensuite céramiste, c'est-à-dire que pas que maîtriser la partie fabrication, mais la partie aussi, tout ce qui est fabrication de l'émail, cuisson. Ça se fait parallèlement, mais c'est pareil, ça demande entre, pareil, je dirais 5 ans de pratique et d'expérimentation, parce qu'on expérimente énormément. C'est un métier où on est tout le temps en train d'expérimenter, de tester. Voilà. Et après, je veux pas dire ça dans le sens, je veux pas décourager les gens, mais je crois que c'est quand même une réalité, quoi. Faut vraiment faire ce chemin pour acquérir toutes les connaissances.
Tu l'as senti dans ton travail et dans les poteries que tu fais, l'évolution des années, de l'expérience ?
Ouais, bien sûr, parce que même au niveau des pièces, ça a l'air tout con de faire un bol. Mais n'empêche que pour qu'un bol soit agréable à utiliser et à prendre dans les mains, il y a quand même tout un tas de choses qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser vraiment la matière, parce que la matière, on l'a. Le bol, il part d'une boule de terre, et puis on va tirer la matière jusqu'à avoir une paroi suffisamment fine pour qu'elle soit ensuite, la pièce soit agréable à porter entre les mains. Mais il faut aussi pas être trop fin pour faire ce petit compromis aussi avec la solidité, le fait que ce soit un objet qui va être utilisé au quotidien. Donc tout ça c'est de la maîtrise. Et puis là où je sens plus pareil l'évolution, c'est de mon expérience, c'est au niveau de la maîtrise de l'émail. Parce que moi, je fabrique mes émaux à partir de roches très très basiques. Voilà, j'utilise les ingrédients. La partie émaillage, ça ressemble un petit peu à la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, parce qu'on va travailler des poudres, donc c'est pas de la farine. Par contre, on est à peu près au même niveau de finesse que la farine, mais ça va être des roches. Et moi, mes ingrédients, c'est, je vais utiliser du feldspath, c'est le liant, on va dire, du granit. Et je vais utiliser de la silice qui va donner la silice, c'est la base du verre, puisque l'émail, c'est du verre qui va rentrer en fusion. Je vais utiliser du calcaire, de la pierre calcaire. Je vais utiliser des argiles. Je vais utiliser un petit peu de choses comme, par exemple, du talc. Et après, il va rentrer dans cette préparation. Je vais incorporer les pigments. Et moi, en pigment, je vais utiliser essentiellement de l'oxyde de fer. Et puis, j'utilise un tout petit peu de bouillie bordelaise pour obtenir des rouges de cuivre. Et donc, à partir de ces choses très très simples, y a tout un travail après de tests pour arriver à mettre au point, en fait, le bon équilibre, la bonne recette, qui doit bien sûr fondre à la température, une température précise qu'on a choisie. Et là, je vais procéder par... Je fabrique des petites plaquettes de terre, en fait, que je fabrique même sur le tour. Je vais préparer des petites quantités de ces mélanges. Je vais tremper chaque plaquette, et ensuite, ça passe à la cuisson. Et puis, c'est à l'issue de la cuisson qu'on fait la lecture, voir si l'émail est trop fusible, s'il y a quelque chose à corriger, si l'émail, il donne pas la texture souhaitée, si la couleur... qu'on a recherché se développe, si la superposition a bien fonctionné, bref, après tout ça. Pour rester dans le domaine de la pâtisserie, parce que j'aime bien les comparaisons à des choses qui parlent à tout le monde pour expliquer un peu ce qui se passe dans le four ou ce qui se passe au niveau des matériaux. Mais c'est exactement ce qui se passe avec l'émail, c'est exactement ce qui se passe quand on, par exemple, on fait un caramel avec du sucre. En fait, on va partir d'une matière sèche, on va la chauffer, et à une certaine température, vraiment la matière va changer de comment dire d'état, elle va passer au liquide, avec le caramel qui commence à devenir liquide, qui commence en plus à changer de couleur. Et après, au refroidissement, ça va se solidifier. C'est tellement solidifié, des fois, qu'on est obligé de balancer la casserole avec le caramel parce que ça se décolle pas. Et c'est ce qui se passe avec l'émail, en fait. C'est vraiment le même principe.
Si je reviens toujours dans le processus de devenir potier, j'avais une question sur la peur et l'angoisse, ça peut être, de faire ce genre de métier qui peut paraître fermé, qui peut paraître un peu bouché. Est-ce qu'il y a une peur de se dire je vais devenir potier et ça se trouve je vais pas vendre ce que je crée?
Après, tout à l'heure, la première question que tu as posée, c'était sur le rapport passionnant du métier. Donc du coup, ça, c'est justement ce qui fait que tu choisis de faire quelque chose sans te poser la question si tu veux en vivre. Ça a été ma première étape. Je ne me suis pas du tout posé la question dans un premier temps. Bien sûr, on est toujours un peu, comment dire, optimiste. On y va un peu... On a envie que ça fonctionne, mais c'est venu après. C'est sûr que ça fait partie des angoisses. Je pense, quand on a un métier dans lequel on s'investit énormément, d'un point de vue temps, mais après d'un point de vue aussi émotionnel. Je pense que parce qu'on fait pas ça, on fait ça quand même avec une part de, il y a une part d'intime en fait qu'on met dans ce métier quand même. Dans tous les métiers comme ça, dans lequel on va montrer quelque chose de nous, on va montrer en tout cas quelque chose qui nous plaît, qu'on va le proposer. Et c'est sûr que quand tu entasses ta production et que t'as jamais personne pour l'acheter, c'est très touchant, très déprimant. Après, moi, quand j'ai commencé vraiment à faire ma production, voilà, parce que je fais de l'utilitaire, je fais de la vaisselle, j'ai commencé par faire les marchés. Donc, et puis les premiers marchés, on vend 3 bols, on est hyper content, mais là on est les rois du monde, quoi. Sauf que vendre 3 bols par marché, ça va pas suffire, c'est sûr. Je pars du principe, faut jamais baisser les bras. Et puis, faut aussi miser un petit peu sur le destin, sur la chance. Et moi, j'ai des choses, par exemple, qui ont été très porteurs. En fait, il y a quelque chose qui est très porteur. C'est on remercie jamais ses premiers clients, mais c'est quand même eux qui t'aident à continuer. Et puis, je remercierai jamais mes premiers clients qui ont acheté des trucs, peut-être, qui n'étaient pas du tout aboutis, qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à assumer. Mais en tout cas, ils ont peut-être acheté parce que ça leur plaisait aussi, mais peut-être aussi pour m'encourager. Et ça a marché parce que ça a continué de m'encourager. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup porté, ça a été j'ai eu l'occasion de rentrer dans une boutique de producteurs qui venait tout juste de se créer à Mende, qui s'appelle la Maison des Paysans. J'y suis allé sans trop savoir si j'allais trouver ma place, si ça allait. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que ça a été un point de vente ouvert à l'année. En plus, c'est très intéressant parce que c'est un fonctionnement associatif où on est vraiment investi. Puis petit à petit, ça m'a consolidé. J'ai toujours continué les marchés aussi en parallèle. Et après, j'ai eu l'occasion de m'installer. Quand je me suis installé à Bédouès, parce que tout à l'heure, ouais, j'ai pas répondu depuis ta question que tu posais, depuis combien de temps j'étais en Lozère. Et en Lozère, ça va faire 15 ans que je suis en Lozère. Et à Bédouès, ça fait 7 ans. Et en m'installant dans cette boutique de producteurs, j'ai été très sensibilisé à la vente directe. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, en quel je crois énormément. Et c'est quand même la chose qui est la plus juste, hein, d'un point de vue éthique, on va dire. C'est-à-dire que quand le producteur peut vendre directement à ses clients, c'est quand même euh, c'est quand même le mieux. Et puis quand je me suis installé à Bédouès, j'ai vraiment eu l'occasion de pouvoir, pouvoir avoir un petit espace vraiment boutique, ouvert toute l'année, même si de janvier à février, on va dire que c'est un peu le stand-by. Mais vraiment dans cette idée, voilà, d'avoir un espace ouvert tout le temps. Et ça aussi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... encore une fois, j'ai déjà dit le terme, mais qui m'a vraiment consolidé, enraciné, quoi. Donc, je sais pas si je réponds vraiment... Si, enfin, je réponds à ta question dans le sens où, en effet, ouais, je pense que quand tu es... quand tu as ce rapport-là avec ton métier, bien sûr, il y a des hauts débats, et que quand ça marche pas d'un point de vue économique, c'est sûr que c'est pas facile à gérer. Après, je dirais quelque chose de très bateau, dans le sens où faut pas se décourager, quoi. Enfin, il y a... Et puis, puis voilà, on est en Lozère, voilà, c'est vrai que moi, j'ai vraiment pas besoin d'avoir une super voiture. Ma vie me convient. Et d'autant plus, à d'autres niveaux, ne serait-ce que la relation que je peux entretenir avec mes clients, avec les gens qui sont soit des gens qui viennent me voir quand même régulièrement, ou des gens qui sont de passage. Ça aussi, c'est, voilà, il y a peut-être le côté argent, mais il y a aussi tout le côté humain qui encourage et qui fait passer ces petits moments qu'on peut avoir un peu de mou, quoi.
Le côté humain peut être décourageant aussi des fois, de voir des gens qui rentrent dans une boutique et qui peuvent juger ce que tu fais, ton travail, tes choses, des choses que tu peux être très fier, et d'un coup tu entends une réflexion, un truc, les goûts, les couleurs.
Ouais, non, ça n'arrive jamais. Tout le monde trouve magnifique ce que je fais. Non, bien sûr, c'est une blague. Ouais, alors, en fait, j'aime bien aussi avoir des retours négatifs parce que ça me secoue un peu. Voilà. Avoir un œil, des fois, peut-être que ce que va me présenter, enfin, voilà, les goûts et les couleurs, c'est sur une forme ou quoi, ça peut des fois me questionner, me dire, ah oui, j'ai pas vu les choses comme ça. Et peut-être ça va. Du coup, je vais aller faire, je vais justement, ça va me trotter dans une partie de la tête, et puis je vais essayer d'améliorer ça ou voir un petit peu comment la personne voyait les choses. Ou il y a avec le temps aussi, on a la peau qui se cuirasse un peu, donc ça va. J'accepte les critiques. Souvent, justement, ça m'est très utile, les critiques. Et puis si elles me sont pas utiles, voilà, je peux pas plaire, à tout le monde, et c'est bien. Je suis content qu'on soit tous différents aussi.
Tu disais tout à l'heure que peut-être tes premières œuvres, tu les assumerais pas toutes, et aujourd'hui, dans ton travail, dans ce que tu as exposé là dans la boutique autour de nous, est-ce que tu assumes tout, ou il y a deux, trois trucs que tu as un peu plus de mal?
Ouais, bah bien sûr, il y a toujours, en fait, une pièce, c'est ça aussi avec la céramique, c'est qu'une fois qu'elle est sortie du four, elle est potentiellement, si elle va pas être cassée ou réduite en morceaux, elle peut potentiellement durer plusieurs millions d'années. Donc c'est vrai que des fois quand je vois je me suis un peu loupé sur cette ligne, ou je me suis un peu je trouve que ça demanderait à ce que ce soit un peu plus à cet endroit là que allez, 1/2 cm de moins ça serait mieux, ou 1/2 cm de plus, ou ouais, bien sûr, j'en vois plein des pièces, mais auxquelles j'aurais quelque chose à redire. D'ailleurs, peut-être en plus, c'est les pièces qu'on pas trouvé acheteur. Hein. Peut-être que c'est pour ça. Mais après, c'est marrant parce qu'il y a des fois des pièces qu'on regarde d'un œil, on se dit, ah non, celle-là, vraiment, ça va pas. Et puis, on la revoit 2 ans après et on se dit, finalement, ça va, finalement. Ouais, bah après, ça c'est. Je pense que c'est pareil, toute personne qui a un rapport. Un rapport très technique avec son travail, il voit toujours le défaut.
Si on parle plus côté financier, côté production, tu me disais en amont de tout ça qu'il y avait un côté création, un côté production. Est-ce que tu as réussi à trouver le juste milieu pour te faire plaisir encore dans la création, mais produire assez pour pouvoir vendre assez et en vivre?
En fait, moi, la partie création, la partie production, c'est aussi la partie création parce que je fais beaucoup de En fait, je vais pas mentir, le métier de potier, de céramiste, c'est quand même, surtout quand on fabrique du utilitaire, c'est quand même un métier de série. On fait des séries de pièces. Et puis souvent, les gens, ils veulent pas un bol, ils veulent 6 bols comme ça. Donc, ça va apparaître comme vraiment de la production, la partie façonnage, quand je suis sur le tour et que je vais faire des séries de 100 pièces. Mais après, il y a toujours une recherche constante sur... Il y a des formats que j'aime bien, que je modifie pas. Et il y a des pièces que je vais modifier un petit peu la forme, je modifie un peu l'esthétique. Et puis après, l'aspect création, il est aussi sur cette partie émaillage. Enfin, sur cette partie émail, justement, où là, il y a un champ de possibilités. Je fais de plus en plus de... Alors, j'aime pas trop les choses trop graphiques, c'est-à-dire que j'aime pas les décors. Enfin, j'aime bien les choses qui sont très abstraites, donc c'est pour ça que j'adore l'émail. Et j'aime bien faire un peu de graphisme, c'est ce que je fais un petit peu plus, mais de manière très simple, c'est-à-dire que je vais travailler sur soit des superpositions ou alors vraiment poser l'émail d'une certaine manière en contraste avec justement d'autres couleurs. Ça ça va être l'aspect créatif, parce que derrière il y a tout l'aspect technique pour y arriver, et il faut trouver des solutions pour que ça avance, pour que ça fonctionne, quoi. Voilà, mais là après la création, ça va être plus sur du prototypage de pièces, quoi. Ça dépend aussi ce qu'on entend par création. Parce que souvent, on a une idée de la création comme étant quelque chose de très... Puis à une époque, c'est vrai qu'on faisait beaucoup la distinction entre ça c'est artisanal, ça c'est de l'art. Moi, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, les producteurs en Lozère qui s'attachent soit à travailler du maraîchage en utilisant des vieilles variétés ou en travaillant le plus naturellement possible, pour moi c'est presque artistique aujourd'hui, où tous nos paysans boulangers qui font du super bon pain dans des fours à bois avec du levain naturel, tout ça, ben je trouve que c'est pareil, aujourd'hui c'est de l'art, ça. Donc tous les gens qui mettent qui font pas de compromis une forme de facilité qu'on pourrait basculer pour faire des choses de moins bonne qualité, mais ça irait plus vite. Et puis
ce sera encore possible aujourd'hui d'imaginer de nouvelles façons de faire de la poterie, ou un grand tour a déjà été fait depuis des milliers d'années?
C'est ça aussi, c'est qu'on est quand même moi dans chaque derrière les techniques que j'utilise, il y a 2000 ans de savoir-faire. Donc, je sais pas si j'ai innové de tout ce savoir-faire. J'ai pas apporté de grosses innovations. Après, aujourd'hui, on a plein de facilités. Moi, je travaille pas avec un tour à pied. Je travaille avec un tour électrique. C'est-à-dire, il y a un moteur qui fait tourner le tour, c'est pas ma jambe droite qui fait tourner la roue. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce qui change le plus, c'est la manière dont on va vendre notre production. C'est plus ça, quoi. C'est plus, je trouve, ce rapport là qui change. Après, je cherche en même temps que tu me poses la question. Après, oui, il y a eu des essais d'imprimantes 3D. Pour du prototypage peut-être, mais sinon c'est pas hyper, ça nous a pas mis sur le cul, ça a l'air hyper fastidieux. Après, j'utilise un petit peu d'imprimante 3D dans mon métier, mais alors pas du tout d'imprimante 3D céramique, c'est de l'imprimante 3D pour faire des tampons, des choses comme ça. J'avais passé mon CAP, justement, il y avait encore un CAP de tourneur qui était enseigné, parce que en fait, un tourneur, faut savoir que on met quelqu'un sur un tour de potier, il est plus efficace que n'importe quelle machine. C'est-à-dire, il sera beaucoup plus souple, il pourra, à partir du moment où c'est un tourneur qui est expérimenté, il va pouvoir faire autant des toutes petites pièces que des énormes pièces. Il est Ouais, quasi aussi rapide qu'une machine. Il est capable de faire une quantité de choses différentes qu'une machine. Il faut toujours soit la reprogrammer, soit changer le moule, soit changer je sais pas quoi. Et non, donc voilà.
Question un peu à part, ça mange dans quoi un potier ?
Ça mange dans quoi ?
Dans quel genre d'assiette ? Dans quel genre de tasse ?
Chez nous, c'est que du Ikea. Non, bah ça. Alors moi, enfin à la maison, on me critique souvent en me disant que j'ai beaucoup de pièces à moi, mais c'est parce que on casse beaucoup à la maison, donc on a souvent on récupère un peu les pièces qui ont des petits défauts, des trucs comme ça. Mais chez nous, on aime bien manger dans des bols. On aime bien manger dans des bols. On aime bien manger aussi dans des assiettes. On boit quasiment tout dans les gobelets. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait le café dans la cafetière en terre. Ça, on aime bien. On cuisine beaucoup dans les cocottes et dans les plats gratins et les plats à tarte. Ouais, je pense que les potiers, potières, ils aiment bien cuisiner. Puis en plus, la céramique, ça a vraiment un lien direct avec la cuisine, puisque je pense que si on remonte au néolithique, où c'est là où on a commencé un petit peu à faire des objets en terre. J'imagine à l'époque ce que ça a dû être comme révolution de pouvoir cuisiner, alors que je pense qu'avant on devait passer à des espèces de choses un peu rôties sur le feu qui étaient un peu soit cramées à l'extérieur et puis un peu bien saignant à l'intérieur ou tout un voilà une nourriture un petit peu comme ça dans cet esprit là quand on a pu faire des cuisiner dans la terre, on a pu commencer à rajouter des nouveaux arômes. Enfin, on est passé du rôti au mijoté, à tout un tas de formes de différentes cuissons. Très lié, ça, hein, cuisine et céramique. Et moi, j'adore fabriquer j'ai toute une gamme de pièces pour cuisiner. Parce que ouais, c'est des choses que j'utilise tous les jours à la maison, dans lesquelles j'adore cuisiner, donc...
Tu es le potier qui accompagne depuis plusieurs années le festival de la soupe à Florac. Tu y fais du coup les bols de la soupe. Chaque année, il y a de plus en plus de monde au festival. Tu as des chiffres en tête de combien de bols tu fais chaque année ?
J'ai commencé. Alors, ça peut-être c'est les premières années où j'ai commencé. C'était en 2020. Donc là, pas de bol. Le festival était annulé. On se souvient, c'était un peu une époque un peu particulière. Et après, en 2021, on a refait une petite série de bols quand même, parce que c'était dommage d'avoir les bols datés de 2020 et de pas en avoir et qu'on était en 2021. Donc je crois que la première année, donc du coup, en 2021, la première année où le festival a pu se faire depuis que je faisais les bols, on avait dû faire à peu près 2500, ouais, peut-être un peu moins, 2200, 2300 bols. Et ça a été en 2022, on en a fait 2500. Et là, ça a été la folie parce que c'était une année exceptionnelle. Ils ont vraiment, voilà, ils avaient plus de stock de bols. Tout était parti. Et l'année dernière, donc en 2023, pareil, on a fait 2800 bols. Enfin, si je veux être vraiment précis, 2780. Et pareil, ça a été la razzia parce que le samedi à midi, je crois qu'il n'y avait plus de bol. Donc cette année, on est parti pour en faire un petit peu plus.
Toujours de plus en plus. En produire autant, ça va forcément changer toute ta manière de production. Et tu dois même peut-être ne pas faire ça seul. Ça te prend combien de temps de faire autant de bols ?
On commence, je dis on hein, parce que on le fait à 2-3. Alors on fabrique tout ici parce que j'ai monté un petit process de fabrication qui se fait ici, puis c'est quand même plus simple de faire toute la gestion ici. Mais du coup pour faire l'année dernière 2800 bols, on a commencé au mois d'avril. Et cette année, je pense qu'on va commencer, mi-mars. Et la technique que j'ai utilisée un petit peu pour faire ces bols, en fait, c'est une, J'ai justement mélangé un petit peu du moderne et puis de l'antique parce que quand j'ai repris la fabrication des bols de la soupe, je voulais qu'on retrouve vraiment toutes les inscriptions sur les bols de la soupe. Je voulais qu'on ait le nom de la sauce. Alors si on avait le logo, le Monsieur Patate des gens de la soupe, c'était le top. Enfin voilà, je voulais retrouver vraiment un produit un peu vraiment personnalisé, quoi, que les gens ils aient. Je voulais pas que ce soit en dessous, je voulais que ça se voit. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé en sorte pour que ce soit sur l'extérieur du bol. Du coup, ça fait un petit bol rond et on a toutes les inscriptions qui sont sur le côté. Et avec la petite anse qu'on utilise, dans laquelle on passe le petit fil et comme ça, on a tous le bol autour du cou là. C'est hyper sympa. Et donc pour ça, j'ai utilisé la technique moderne, c'est-à-dire que j'ai fait justement toutes les choses qui seront en relief à l'extérieur. J'ai fait faire des tampons à l'imprimante 3D. Donc comme ça, on a pu faire le logo, on a vraiment pu avoir choisir la police et tout d'écriture. Et après, j'ai utilisé une technique, là pour le coup antique, donc pour la fabrication. En fait, la technique s'appelle la sigillée, c'est-à-dire que c'était une céramique gallo-romaine qui était fabriquée dans des moules qui étaient justement en terre. En fait, on n'utilise pas de plâtre, hein, c'est vraiment de la terre. Et les moules vont mouler l'extérieur du bol. Mais par contre, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est des moules dans lesquels on va tourner. Donc c'est pas du moulage, c'est du tournage dans ces moules, puisqu'on travaille la terre à la texture moi, que je connais, quoi. C'est la même qu'on utilise sur le tour. Et on va tourner dans ce bol. Ensuite, on va calibrer, c'est-à-dire on va enlever un peu l'excédent de matière pour bien régler la finesse de la paroi, parce que sinon, c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte quand on travaille dans un moule. Et après, c'est là que c'est magique, c'est qu'avec le retrait de la terre, c'est-à-dire le retrait, c'est au moment du séchage, en fait, le bol va légèrement se rétrécir et on va pouvoir le démouler comme ça. Et tout est calculé pour que justement, il faut que le relief sorte des creux du moule. Donc voilà.
Et du coup, faire autant de bols, ça va? Tu arrives encore à suivre sur la cadence, sur ce qui est demandé, est-ce que ça te prend pas trop de temps par rapport à ce que tu fais à côté?
Si, ça prend beaucoup de temps, mais c'est pour ça que de le faire à plusieurs, ça permet de se répartir un petit peu le travail. Et puis ça permet aussi de tourner pour pas que ça devienne trop, d'avoir l'impression qu'on s'en sort jamais. Donc ouais, on enchaîne 2 semaines, 3 semaines et après on fait une petite pause. C'est pas non plus des grosses journées parce que sur la fabrication des bols, on en fait que 50 par jour. Ça prend pas la journée quoi, ça prend 3-4 heures.
Ou de cette grande production de bols, tu as prévu autre chose pour cette année, précisément, une nouveauté, quelque chose
J'ai des petites choses ouais, qui me trottent dans la tête, mais ça sera pas pour cette année parce que là, clairement, on est fin février, je vais préparer vraiment le stock, toute la production, reprendre un peu les cuissons et tout. Et puis on va justement démarrer dans un mois, là, on va démarrer la production des bols à soupe. Non, j'ai des petites choses qui me trottent au fond de la tête, mais ça sera pas pour cette année parce que cette année j'avais des petits travaux justement à faire un peu dans l'atelier pour un peu améliorer les conditions de travail quand on est plusieurs. Donc voilà, ce sera pas pour cette année.
Et sinon, où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais si on veut acheter, voir, contempler?
Eh ben on peut me retrouver à Bédouès, à La Pontaise, très précisément. C'est le petit lieu dit qui est entre Bédouès et Cocurès, juste avant le pont. Vous pouvez venir me voir ici Et vous verrez l'atelier qui est juste à côté. Et puis sinon, après, je fais partie de deux boutiques de producteurs en Lozère. Donc une à Mende qui s'appelle la Maison des Paysans de Lozère, qui est place René Stoup. C'est la petite place qui est derrière la cathédrale, la préfecture. Et puis sinon, ben, à Florac, sur, chez les Paysans de l'Esplanade, pareil.
En tout cas, merci beaucoup Anthony. Je remets toutes les infos de toute façon sur le site internet de Bartas. Et merci.
Et bien, avec plaisir, Radio Bartas.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. On se quitte avec Black, Betty, Jam Jam. Excellente journée. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. Ciao.
She makes me sing, Bam-a-lam, whoa, Black Betty.